enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce sur quoi je voudrais partager avec vous, c'est ce fameux roman dont tout le monde parle depuis 2 ans, qu'on appelle le Da Vinci Code, et Jésus. Donc, est-ce que le Da Vinci Code aurait une nouvelle image à nous offrir de Jésus? Est-ce que le Da Vinci Code, ce roman qui a un succès littéraire, vous savez, il y a 20 millions d'exemplaires qui ont été vendus, en France, 2 millions, ça ne fait que grandir, et c'est vraiment un succès littéraire énorme, mais ce succès littéraire est en train de modeler une façon de voir l'Évangile, une façon de voir les Écritures, une façon de voir Jésus-Christ dans une génération autour de nous qui ne lira probablement pas la Bible, qui ne lira probablement pas de livres sérieux, et peut-être le livre le plus sérieux qu'ils auront lu dans les dernières années, ce sera le Harry Potter des adultes, c'est-à-dire le Da Vinci Code. Et le Da Vinci Code est absolument un livre passionnant à beaucoup d'égards, mais nous allons voir autour de nous des personnes qui vont avoir une image de Jésus-Christ, une image de l'Écriture, qui va être en fonction de ce que le Da Vinci Code communique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. En 2 ans, 2 millions de personnes en France, et ça ne fait que grandir. C'est vraiment un best-seller. Alors, j'ai trouvé par contre sur un site étudiant, dans ce succès littéraire, j'ai trouvé ceci. J'ai peu aimé la mention légale du départ. Toutes les descriptions de monuments, d'œuvres d'art, de documents et de rituels secrets évoqués sont avérées. Ça veut dire, il dit, tout ce que je vais vous dire ici en ce qui concerne les choses historiques et les monuments géographiques, etc., sont avérés, c'est vrai. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas. Parce que la beauté et le dilemme de ce roman, c'est que c'est un roman historique fiction. Et par moment, il vous donne l'histoire comme une fiction, et par moment, il vous donne la fiction comme une histoire. Ce qui fait qu'il manie le vrai et le faux constamment, ce qui fait que si vous ne vérifiez pas historiquement, vous pouvez croire des choses phénoménales. Dès le début du livre, par exemple, il nous dit, et moi tout de suite j'ai fait, ah bon ? Il nous dit, François Mitterrand a exigé que 666 alvéoles composent la pyramide du Louvre. Et il savait que c'était un nombre satanique. Et là, on dit, ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Moi, je n'avais pas une grande opinion de cet homme-là déjà, mais là, vous voyez ? Mais maintenant que j'ai lu tout ce qu'il a dit après historiquement, je commence à dire, hop, attention, bémol, il y a pas mal de choses à vérifier sur ce roman historique fiction. Alors, je voudrais vous partager le récit de ce roman. On va voir quelles sont les sources sur lesquelles le Da Vinci Code s'appuie, les questions pertinentes qu'il nous pose, parce qu'il nous pose des vraies questions, surtout à nous chrétiens, il nous pose des vraies questions intéressantes, et la question de fond que nous poserons, sur laquelle on va s'attarder un peu plus, parce que c'est ça, qui est Jésus-Christ ? Qui est Jésus-Christ réellement ? Est-ce que le Da Vinci Code nous apporte une nouvelle image de Jésus, un secret que nous ne connaissions pas en ce qui concerne Jésus ? Alors c'est vrai que cette histoire qu'il met sur la première page, toutes les descriptions de monuments, d'œuvres d'art, de documents, de rituels secrets évoqués sont avérées. On peut dire, ah bon ? Et je pourrais vous le prouver en faisant plusieurs conférences. Ce matin, ce sera juste une prédication, un peu conférence, mais on en fera d'autres au moment de la fête de l'Évangile, et vous verrez que même des gens, des historiens, des gens qui sont même des chefs des sectes qu'ils citent comme étant la secte de Da Vinci, Léonard de Vinci. Le chef de cette secte dit non, c'est totalement faux ce qu'il dit nous concernant. Donc vous verrez qu'il y a des choses un peu bizarres. Mais franchement, c'est un bon polar. C'est vraiment, il y a tous les ingrédients dedans d'un livre à succès. Alors l'histoire, c'est quoi ? L'histoire, c'est un certain Jacques Saunière. Et retenez peut-être ce nom. Écoutez, ce matin, vous allez avoir pas mal d'informations. Donc, je vous demande de faire un petit effort de concentration, d'être avec moi. Et je vais vous poser souvent la question. Vous me suivez ? Vous allez répondre oui. Même si vous ne me suivez pas, vous me dites oui. D'accord ? Donc, vous me suivez ? Merci. Donc, Jacques Saunière est le le conservateur du musée du Louvre. Et cet homme-là est retrouvé assassiné dans une position un peu particulière. Il est entièrement nu, avec des dessins autour de lui. Et bien sûr, il nous rappelle ici l'homme de Vitruve, le fameux tableau de Léonard de Vinci. Mais ce n'est pas son assassin qui l'a mis dans cette position, c'est lui-même, parce qu'il dit « il y a un message codé, caché, que je veux transmettre ». Il y a à côté de lui le professeur Langdon et des historiens dans le livre qui doivent comprendre le message laissé par cet homme. Et on comprend qu'un message important doit être dévoilé qui peut remettre en cause tout le christianisme. Ce secret aurait été transmis de génération en génération par le prieuré de Sion, une société secrète, dont Léonard de Vinci, Victor Hugo, Jean Cocteau, pour citer les plus célèbres, auraient été les présidents. Alors bien sûr, c'est conditionnel, et donc avec une telle intrigue, quelque chose qui peut remettre en question tout le christianisme, pas étonnant que le cinéma s'en mêle. Est-ce que j'ai du son, Yann ? Il y en a. C'est si puissant.
That men have died to protect it.
Que les hommes sont morts pour le protéger.
And there are those who would kill.
Et il y a ceux qui tueraient.
To expose it.
Pour l'exposer.
It is a message that has been hidden for centuries.
C'est un message qui a été caché pendant des siècles.
Right before our eyes.
Là, juste devant nos yeux.
What if the world's greatest works of art,
et si la plus grande œuvre d'art au monde révélait un secret qui pouvait changer le cours de l'humanité? Toujours.
Next summer,
l'été prochain,
no matter what you have read,
peu importe ce que vous avez lu,
no matter what you believe,
peu importe ce que vous croyez,
the journey has just begun.
Le voyage vient juste de commencer. Et vous allez voir les bons acteurs qu'il y aura. Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, pour ne citer qu'eux, qui sont parmi les plus connus. Et ce sera dans toutes nos salles de cinéma dès le mois de mai prochain. Donc on sait que le livre a déjà été un succès. Le film va commencer dans le monde entier le 19 mai. À révéler un secret ou une autre image de Jésus. Donc, quelles sont les questions que le Da Vinci Code nous pose ? Quelles sont, à nous chrétiens, les questions qu'il pose sont d'abord ceci. Est-ce que Léonard de Vinci était membre d'une secte et ses tableaux sont-ils codés ? Ensuite, est-ce que Constantin, l'empereur Constantin au IVe siècle, a profité de la foi chrétienne pour mélanger ses anciennes croyances et changer les pratiques du Nouveau Testament ? Les Mérovingiens, les rois mérovingiens, les rois français, sont-ils des descendants d'une union entre Jésus et Marie-Madeleine ? Ensuite, les Écritures. Est-ce qu'il existe des documents plus fiables que ceux du Nouveau Testament pour savoir qui était Jésus ? En fait, les Écritures sont-elles symboliques ou codées ? Pouvons-nous nous fier à ces écrits qui composent le Nouveau Testament ? Où ont-ils été transformés continuellement dans l'histoire, comme le dit le Da Vinci Code ? En réalité, sur quels critères les écrits retenus dans le Nouveau Testament ont-ils été choisis ? Voilà des questions intéressantes que nous allons devoir affronter après la sortie du Da Vinci Code. Et en ce moment, est-ce que le christianisme est une religion anti-féminine ? On a renié la place des déesses pour pouvoir diminuer l'importance des femmes. Pour une religion maxi-mâle, n'est-ce pas ? Comme Richard l'a écrit hier. Est-ce que les premiers chrétiens ne reconnaissaient pas la divinité de Jésus, comme le dit Dan Brown, donc l'auteur du Da Vinci Code ? Et puisqu'il nous dit que c'est en l'an 325, avant cela, personne parmi les premiers chrétiens ne reconnaissait la divinité de Jésus. C'est sur un vote au Concile de Nicée, un vote gagné d'extrême justesse, que nous avons voté finalement que Jésus est Dieu. Mais s'il n'était pas passé, eh ben Jésus serait pas Dieu aujourd'hui. Donc, c'est des questions qui nous sont posées, qui sont fortes ici avec le Da Vinci Code et qui sont intéressantes pour nous. Alors, premièrement, j'aimerais voir avec vous les sources de Dan Brown pour qu'on sache un peu, mais ce monsieur, il va où avec ça? Ah oui, j'ai oublié de vous donner les réponses à toutes ces questions. Donc, les réponses sont non, parfois, non, non, oui, 4 ou 5, non, mais si. D'accord? Comme ça, vous avez, maintenant, quand on vous posera la question, vous saurez quoi répondre. Ainsi, on va essayer d'y répondre un peu plus en détail pour que éventuellement vous ayez plus d'éléments. Mais les sources de Dan Brown, c'est quoi? Parce que ça lui est venu d'où ces questions-là? Il a au moins trois sources majeures. On peut en voir plus que ça et il en a plus que ça, mais il y a trois sources majeures. Il y a une petite ville pas loin de Carcassonne qui s'appelle Rennes-le-Château. Et il y a à Rennes-le-Château un abbé qu'on appelle l'abbé Saunière. Ça vous dit quelque chose, Saunière? C'est le conservateur du musée, donc dans le Da Vinci Code. Et donc ce prêtre-là, un jour, a trouvé un trésor extraordinaire. Qu'est-ce que ce trésor? Lui dit, ce sont des médailles de Lourdes. Les gens du village disent, peut-être qu'il a gagné plein d'argent. La légende est montée dessus pour dire, en réalité, c'est le trésor de Salomon qu'il a trouvé là, à côté de Carcassonne, le trésor de Salomon. Et ça s'explique parce que les Romains, étant allés piller le temple de Jérusalem, ils ont ramené tout à Rome. Mais les Visigoths sont allés à Rome, et les Visigoths habitaient dans le sud de la France, ayant pour capitale Toulouse, et Clovis ayant vaincu les Visigoths se sont dit, où on va mettre le trésor de Salomon? Et quelqu'un a eu l'idée, si on le mettait dans la petite église de Rennes-le-Château, là où des siècles plus tard, en 1930, l'abbé Saunière va découvrir le trésor que dans leur précipitation, les Visigoths auraient caché dans la petite église. Mais nous n'avons aucun document, il ne s'agit que de suppositions. Alors bien sûr, cette légende a fait monter beaucoup, beaucoup d'encre et de paroles et d'argent. Parce qu'il y a eu, à ce moment-là, en 1956, dans la Dépêche du Midi, le journal local, un article, la fameuse découverte du curé au milliard de Rennes-le-Château. Et les rumeurs se sont amplifiées, du coup un restaurateur carcassonnais en a profité. Il a dit, si vous venez dans mon auberge pour manger, il y a quelqu'un qui racontera toujours les histoires de l'abbé Saunière. Donc cet homme a fait un argent fou sur cette histoire-là. Puis après, un monsieur qui s'appelle Gérard de Sède a écrit en 1967 « L'or de Rennes » ou l'insolite histoire du prêtre Saunière. Et donc lui a dit « En fait, le trésor, c'est pas un trésor d'argent et d'or, c'est un trésor symbolique, un trésor de connaissance. On a découvert que la France a perdu son roi. Et son roi s'appelle Monsieur Pierre Plantard. Monsieur Pierre Plantard, vous savez ce que veut dire Plantard dans le Da Vinci Code? Pour ça, je vous dis des moments, il faut vraiment avoir l'esprit bizarre. Plantard veut dire le plan ardent. Et le plan ardent signifie le seul descendant des rois mérovingiens qui en France auraient été dérobé de la royauté par les Capétiens, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, Gérard de Sède s'amuse en disant « Il y a un roi perdu, Monsieur Plantard ». Dès ce moment-là, trois journalistes, un Anglais, un Australien, etc., dont nous retrouvons le nom dans le Da Vinci Code, ont pris contact avec Monsieur Plantard. Ils sont allés le voir pour lui dire « Mais en fait, qui êtes-vous ?» Ce Monsieur Plantard avait écrit au maréchal Pétain pour dire « Il faut mettre tous les Juifs dehors de France, tu es un antisémite » et lui avait la conviction qu'il était le descendant des Mérovingiens. Ils sont allés le voir et ils lui ont dit « Mais alors, qui êtes-vous ? Je suis le descendant des Mérovingiens. » Mais, non seulement ça, les Mérovingiens sont les rois descendants d'une union conjugale entre Jésus et Marie-Madeleine. Et voilà que, encore une fois, il ajoute quelque chose au Da Vinci Code. Et enfin, la troisième source du Da Vinci Code est un livre qui s'appelle « La révélation des Templiers » avec deux journalistes anglais, une dame qui s'appelle Madame Picknett et puis un monsieur qui s'appelle Monsieur Prince. Cette femme, elle, est très engagée dans l'ésotérisme, l'occultisme. Elle dit, en réalité, Jésus n'a qu'un rôle secondaire dans l'évangile. Le héros de l'évangile, c'est Jean-Baptiste et l'autre héros, c'est Marie-Madeleine. Et donc, elle nous dit que les sociétés secrètes sont allées au temps des Templiers, en 1099, à Jérusalem, et ils ont retrouvé les documents que personne n'a jamais vu. Ils auraient retrouvé les documents par lesquels il est attesté que Marie, Madeleine et Jésus auraient été mariés et auraient eu des enfants, etc., etc. Donc le Da Vinci Code prend sa source là-dedans. Mais regardez ceci, comment en 50 ans, nous sommes passés des récits extravagants d'un restaurateur carcassonné qui se fait du fric sur une histoire que personne ne connaît, au roman mondial qui est en train de bouleverser la pensée humaine, et c'est ce qui nous est dit dans cette présentation du film, que nous appelons le Da Vinci Code. Alors, cette dame, Madame Picknett, nous explique ceci. En réalité, nous savons que quand Léonard da Vinci peignait, il avait des tableaux avec des signes codés. Et dans ce tableau, qui est la scène ici, nous pouvons voir, nous dit-elle, entre Jésus et son disciple de gauche, à la droite de Jésus, donc, que nous appelons tous l'apôtre Jean. Mais elle nous dit, non, ce n'est pas Jean, c'est Marie-Madeleine avec un visage masculin et un peu de duvet. Parce qu'en ce temps-là, les femmes pouvaient pas s'épiler de la même façon. Donc, je vous assure, je peux vous montrer le DVD où cette dame déclare ça. Je dis, sur quoi c'est basé, si vous voulez, ces sources-là? Et alors, non seulement ça, mais elle nous dit, c'est évident que c'est Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que si vous prenez Jésus et à côté, soi-disant Marie-Madeleine, vous avez un V. Le V est le symbole du vase féminin, le masculin étant symbolisé par une pique, que vous avez ici d'ailleurs au milieu du V. Vous avez une pique rouge là, je n'ai pas de quoi montrer. Donc cette pique rouge est le symbole de la masculinité. En bas, vous avez, entre les deux, entre Jésus et, soi-disant, Marie-Madeleine, avec du duvet, vous avez donc un V. Ce V serait le symbole du Saint Graal, c'est-à-dire la coupe, le calice dans lequel Jésus a bu. Et donc, l'unité parfaite, le royaume de Dieu parfait, c'est donc un acte de rencontre sexuelle, un mariage sacré entre le masculin, truc rouge, et le féminin, le V. Et en plus, la preuve qu'il s'agit bien de Marie-Madeleine, c'est que maintenant, pour le Da Vinci Code, hein, tout le monde comprend que je suis parfois tordu, mais pas à ce point-là, vous voyez, pour imaginer un truc pareil. Donc, si vous prenez Jésus à sa gauche, donc à notre droite, prenez Jésus ici, vous faites comme ça, vous montez, vous descendez, vous reprenez soi-disant Marie-Madeleine et vous redescendez. Merci pour le truc rouge là. Ça forme un M. Est-ce que tu peux montrer le M avec le machin rouge? Là, à la droite de Jésus. Tu montes le long de son bras là, à droite. Comme ça, tu montes. Ah, entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc ton point rouge, il a l'air perdu là-dedans. Ok. Et ce M, surtout pour nous les Montpelliérains, c'est vraiment le grand M, ici. C'est-à-dire, c'est le M qui veut dire Marie-Madeleine. Et donc, Léonard de Vinci est en train de nous dire, le chef de l'Église, ce n'est pas Pierre, c'est Marie-Madeleine.
La chose personnellement qui me semble la plus étonnante, c'est en dépit de la démultiplication des scènes liées à Marie-Madeleine, l'oubli de la scène la plus essentielle de sa vie, c'est-à-dire le moment où Jésus ressuscité lui apparaît.
Il est en train de parler des peintures qu'on trouve dans cette église de Rennes-Château.
C'est presque impensable pour un curé de cette époque. Pose de nombreuses questions.
On imagine un envers de la vie de l'abbé, une vie cachée, et il aurait pu avoir accès à certaines informations concernant un secret qui concernerait Marie-Madeleine.
Mais que sait-on exactement de Marie-Madeleine? Qu'en pensent les historiens? Qui était-elle pour l'Église?
Marie-Madeleine, pour l'Église, est une femme de mauvaise vie, prostituée ou courtisane, qui, en rencontrant Jésus, s'est convertie au christianisme. À partir de là, elle a eu une place importante auprès de Jésus, qui l'aurait guérie des sept démons qu'il a possédés, et une place importante au point qu'il l'a choisie pour être le premier témoin de sa résurrection, puisque selon Marc et selon Jean, c'est à elle que Jésus ressuscité apparaît en premier, et c'est elle qui va charger d'annoncer la nouvelle de sa résurrection à l'ensemble des autres disciples.
Il est... Marie-Madeleine était-elle une prostituée? Sûrement pas. Était-elle l'épouse du Christ? Bien malin qui peut l'affirmer. En tout cas, elle faisait partie du cercle des fidèles. Elle était parmi les apôtres. On la voit à plusieurs reprises y figurer. Alors le Da Vinci Code va beaucoup plus loin que ça. Il va même jusqu'à nous dire que Léonard de Vinci, très informé de la question, aurait représenté Marie-Madeleine à la droite du Christ sur la fameuse scène. C'est une interprétation qui est au mieux fantaisiste.
Officiellement, pour l'Église, Marie-Madeleine aurait fini ses jours dans le sud de la France, près de Saint-Maximin, où se dresse aujourd'hui une basilique où l'on peut encore voir les reliques de la sainte.
Pour moi, incontestablement, il y a un mystère Marie-Madeleine dans le sud de la France. C'est-à-dire que j'ai la conviction que Marie-Madeleine s'est bien rendue dans le sud de la France, qu'elle y a été enterrée, et que très certainement, elle n'est pas venue toute seule. C'est-à-dire qu'elle a sans doute ramené le corps du Christ avec elle.
Alors, vous voyez, cette logique que vous venez d'entendre ici est totalement significative des gens du Da Vinci Code et du style que nous trouvons dans le Da Vinci Code. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voyons ici? Est-ce que ça a baissé la lumière pour vous? Ou c'est, ça n'a rien changé à l'image? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici? Cet historien nous dit dans le premier extrait, son explication, la raison pour laquelle Marie-Madeleine devrait être, et selon eux, chef de l'Église. C'est des évangiles gnostiques ou les apocryphes écrits dans les premiers siècles. Pourquoi Marie-Madeleine serait-elle chef de l'Église? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce que c'est à elle que Jésus ressuscité est apparu en premier, n'est-ce pas? Vous avez tous entendu? Il nous dit cela. On est choqué que à Rennes-le-Château, il n'y ait pas la peinture de Marie-Madeleine. Mais bon, si elle est chef de l'Église, c'est parce que c'est à elle que Jésus est apparu en premier. Jésus ressuscité. Juste après, cet historien nous dit, j'ai la conviction, que quand Marie-Madeleine est arrivée au Sainte-Marie de la Mer, comme dit la tradition, donc c'est juste à côté de chez nous, on est en plein Da Vinci Code, nous, ici, hein? Entre Carcassonne et Sainte-Marie de la Mer. Elle est venue avec dans le bateau, quand elle est partie de la Terre Sainte, elle a pris à manger, parce qu'il faut manger, elle a pris des enfants, elle a pris des compagnons, puis elle a pris le cadavre de Jésus. Parce que après qu'il soit ressuscité pour lui apparaître et faire d'elle le chef de l'Église, il est remort pour être transporté dans le bateau jusqu'au Sainte-Marie de la Mer. Franchement. Mais comment ils ont fait pour être historiens? Ils ont caché où tout leur tuste ce jour-là, au jour de l'examen, ces gens-là? Mais c'est quand même fort, voyez? Et la plupart du temps, si vous réécouterez un autre jour ces extraits, vous verrez qu'ils disent, on peut en déduire que, mais c'est tout le temps des déductions, et il n'y a rien de fondamentalement historique dedans. Bon, ça arrive parfois qu'il y ait des citations historiques véridiques, mais bien souvent, les citations historiques sont défectueuses. Par exemple, dans le Da Vinci Code, en page, 377, il nous dit ceci. Quand il y a eu les découvertes de la mer morte en 1947, d'abord il dit pas 47, il dit dans les années 50, mais bon, ça va, on lui pardonne. Il nous dit ceci. C'est le moment où Constantin, quand ses écrits ont été cachés, il ne dit pas Constantin en 1947, mais il nous dit, quand ils ont été cachés, Constantin avait voulu que des textes apocryphes soient mis de côté, et quand on découvre les fameux documents de la mer morte en 1947, on a les preuves qu'il y a les faux évangiles dedans. Ce que Dan Brown n'a jamais regardé, c'est que dans les découvertes de la mer morte, il n'y a que des écrits en hébreu de l'Ancien Testament et des règles de comment est-ce qu'on vit le culte à ce moment-là, des fonctionnements internes à des vies communautaires. Il n'y a rien, ni des évangiles canoniques qu'on a dans la Bible, ni des évangiles apocryphes. Donc vous voyez, par moment, il vous balance une vérité comme ça, et vous dites, mais où t'as été, qu'est-ce que t'as fumé pour trouver ça, tu vois? Et il y a un livre intéressant qui s'appelle L'Enquête, qui est fait par une journaliste, une reporter au Nouvel Observateur, et Frédéric Lenoir, qui lui est le directeur du magazine, l'hebdomadaire, je ne sais plus si c'est un mensuel ou quoi, Le Monde des Religions. Donc ces deux personnes ont fait une enquête point par point sur les questions du Da Vinci Code,
Et je vous fais cette citation de leur livre ici. L'intrigue du roman de Dan Brown ne repose sur aucune vérité historique. Le prieuré de Sion est né dans l'imaginaire d'un sinistre personnage du XXe siècle, c'est-à-dire Pierre Plantard, dont on a parlé tout à l'heure. Il a monté en 1956 le prieuré de Sion, et il a dit le fondateur, c'était l'ordre des Templiers, et Da Vinci était dedans, et Victor Hugo était dedans. Mais c'est pas vrai, il n'y a aucune trace de ce prieuré de Sion avant 1956, nulle part. Et donc, les références historiques ne sont pas véritables. Il me dit ceci, que Da Vinci n'a pas dissimulé dans ses tableaux des indices du grand secret caché par l'Église, le mariage de Jésus et Marie-Madeleine. Heureusement qu'il y a des enquêteurs et des historiens sérieux. Une autre question que nous pose le Da Vinci Code, c'est qu'elle nous dit, voilà un peu l'image que l'Église donne de la femme et de l'homme. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'homme est un ange, la femme a des cornes de diable. Donc on voudrait nous faire croire que l'Église est venue comme pour supprimer la dimension du divin féminin. Il dit ceci, le christianisme s'est attaqué au divin féminin pour pouvoir asservir les femmes en présentant un Dieu père, un sauveur masculin et un chef apostolique homme, Pierre, dit-il, au lieu d'avouer que c'est à Marie-Madeleine que Jésus a confié la mission. Alors tout d'abord, le Da Vinci Code se trompe en voulant nous dire que Dieu serait pro-masculin. Dieu a créé le couple humain à son image, il a créé masculin et féminin. Ce n'est pas parce que Dieu est père qu'il serait pro-masculin. Ensuite, le Da Vinci Code nous dit que dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu se présente, il est avec sa femme Shekinah. Donc, Shekinah serait une déesse. Pour n'importe quelle personne qui a déjà lu l'Ancien Testament, nous savons que le Shekinah est la manifestation de la gloire de Dieu et non une déesse. Il nous rappelle ceci dans le Da Vinci Code. Vous vous rappelez tout à l'heure le symbole du V, là, le vase féminin, et donc l'acte sexuel comme un mariage sacré au sein du temple. Et il nous dit, mais il y avait à l'entrée du temple des mariages sacrés et des actes sexuels qui sont la preuve que Dieu voulait cette véritable adoration par la sexualité. Les actes sexuels dans le temple existent. Dans 1 Samuel 2, versets 22 et 23, les fils d'Élie, le sacrificateur, couchaient avec des femmes dans le temple. Mais Dieu n'approuve pas. Aussitôt, il dit, Élie, si tu changes pas ça dans la vie de tes fils, si tu les reprends pas, tu es viré du sacerdoce sur le champ. Et c'est ce qui va arriver. Donc, voyez comment il peut prendre quelque chose et le transformer ici. Mais il faut savoir que quand Jésus est venu, il était dans une culture qui ne permettait pas d'être entouré de femmes. Et Jésus était entouré de femmes. Luc 8, verset 1, nous dit qu'il parcourait les villes et les villages et qu'il était entouré de femmes, Marie, donc Marie-Madeleine, Suzanne, etc., qui l'entouraient, qui pourvoyaient à ses besoins. Il faut savoir qu'en ce temps-là, la culture ambiante disait « Mieux vaut brûler la Torah que de l'enseigner à une femme ». La prière quotidienne du juif était celle-ci « Béni sois-tu, ô maître du ciel et de la terre, de ce que tu ne m'es pas créé femme ». Tous les hommes priaient comme ça, bien sûr pas les femmes. Elles étaient punies dans leur karma de malédiction. Et voyez, au milieu de ce contexte, Jésus vient et il forme une communauté de 12 hommes et un groupe de femmes qui l'accompagnaient, qui pourvoyaient, etc. Jésus bousculait totalement la culture ambiante en annonçant par sa vie et ensuite en accomplissant par sa naissance et la croix la rédemption de la condition féminine. Car c'est là que je voudrais en arriver. Le texte de 1 Timothée 2,15 est un texte clé en ce qui concerne la condition féminine dans la Bible. Et bien entendu que Dan Brown n'a jamais lu cela et ne l'a jamais compris. La Bible nous dit ceci, elle nous parle de la femme par qui le péché est entré dans le monde, Ève. À cause de cela, Dieu avait dit à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La femme était un être légalement dominé à cause du péché qui est entré dans le monde. Mais juste après, Dieu dit, « La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. » Et dans 1 Timothée 2,15, quand Paul nous rappelle que la femme a péché, par elle le péché est entré dans le monde, et ensuite l'homme, etc., il nous dit, « Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec foi et avec modestie dans la foi. » Écoutez ceci. Est-ce que ce texte voudrait dire qu'une femme est sauvée seulement si elle est maman? Ce serait digne d'être dans le Da Vinci Code, tellement c'est une grosse ânerie, parfois. C'est un bon polar, mais il dit des grosses âneries de ce style-là. Qu'est-ce que veut dire ce texte-là? Et parfois, nous le lisons et nous ne nous arrêtons pas. En réalité, quand il nous est dit « elle sera sauvée en devenant mère », de qui parle-t-il ? De Marie. Marie est devenue mère de la postérité de la femme, de Jésus, qui est venu pour écraser la tête du serpent. En devenant mère, elle est sauvée. Ce n'est pas le salut éternel, c'est elle est sauvée, elle est délivrée de la condition féminine issue de la chute, c'est-à-dire de l'infériorité qu'avait conduite la chute. Tes désirs se porteront sur lui, mais il dominera. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, désormais, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Et est-ce que vous n'êtes pas content de cela ? Contente. Est-ce que vous n'êtes pas contente d'être dans une église dans laquelle les hommes ou femmes peuvent servir le Seigneur indifféremment ? Écoutez ce que dans le Da Vinci Code, il nous est dit, la réalité de pourquoi nous avons enlevé le divin féminin, c'est que nous voulions asservir les femmes. Mais par contre, les évangiles apocryphes relèvent l'honneur des femmes. Et je vais vous citer deux textes. Un est l'évangile de Philippe. La compagne du Fils est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Alors, du coup, les autres disciples disent, mais Seigneur, pourquoi tu l'embrasses sur la bouche ? Elle et pas nous. Dans l'évangile de Philippe. Mais, cet évangile apocryphe, donc peut-être certains commencent à comprendre pourquoi il n'a pas été retenu dans le canon des Écritures. Mais attendez, cet évangile-là, on nous dit, il ne faut jamais le comprendre littéralement. Embrasser signifie transmettre le souffle divin, parce que tout est fait en interprétation, en image. C'est ça les apocryphes et les évangiles gnostiques. Mais c'est tellement de la folie. Et il nous dit, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas voulait remettre à l'honneur les femmes. Alors, laissez-moi vous lire ceci dans l'évangile de Thomas. Dernier verset de l'évangile de Thomas. Simon-Pierre leur dit, « Que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus leur dit, « Voici que moi je l'attirerai pour la rendre mâle, de façon à ce qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, mâle. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » Ça pourrait expliquer tout un stade d'opérations bizarres, etc., de transsexualité avec l'évangile de Thomas. Est-ce que vous n'êtes pas content que ça n'ait pas été mis dans le canon des Écritures, ça ? Est-ce qu'on comprend un peu pourquoi il y avait un certain discernement dans le canon des Écritures ? C'est pour ça que je dis, c'est vraiment une folie. Mais en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme. Et l'évangile n'est pas du tout venu pour asservir les femmes, mais Jésus est venu pour libérer les femmes d'une condition féminine. Il n'y a aucun message aussi libérateur que l'évangile pour la condition féminine. Aucun message, parce qu'il redonne la même dignité à chaque être humain, qu'il soit masculin ou féminin. Alors, on a commencé à parler de ces fameux évangiles apocryphes. Et là, Dan Brown nous dit dans le Da Vinci Code, mais il y a d'autres sources qui nous révèlent beaucoup mieux qui est réellement Jésus-Christ. Alors c'est quoi ces évangiles apocryphes, ces écrits cachés, secrets ? Donc il y a Thomas, Philippe, Marie-Madeleine, etc. L'évangile de Marie-Madeleine a été découvert en 1950. Les autres ont été découverts ou circulés entre le 2e et le 6e siècle. Quand on dit Thomas, Philippe, sachez une chose, c'est que les gens pratiquaient ce qu'on appelle la pseudépigraphie. C'est un mot compliqué qui veut dire ils se donnaient un nom littéraire important pour essayer d'être plus crédible. Ça veut dire le petit Lazare du coin qui avait juste entendu des histoires orales de Jésus, il voulait écrire un livre et il disait si j'écris Lazare du coin ou Jules de chez Smith en face, ils vont savoir que je lis Gaston Lagaffe et que je vais pas être pris au sérieux. Donc si j'écris Thomas, alors là je vais me faire un nom et on va me lire. Donc c'est ça ce qu'il faisait. Apocryphe veut dire les écrits cachés, secrets, ou on les appelle aussi les évangiles gnostiques. La gnose, c'est quoi ? La gnose, c'est quelque chose que Paul a combattu dans l'épître aux Colossiens, que Irénée a combattu au IIe siècle. Il a écrit un livre qui s'appelle « Contre les hérésies » et il parle de la gnose. Qu'est-ce que c'est que la gnose ? Pour le résumer, c'est ceci. On croit dans la gnose que deux choses. La première, c'est qu'il y a un Dieu créateur qui a créé l'âme immortelle et un démon méchant qui a créé tout ce qui est physique. Et ce démon méchant a enfermé nos âmes dans un corps. Donc ça, c'est vraiment dur. D'où le mépris du corps traditionnellement dans une fausse religion ou dans des traditions qu'on a essayé de glisser parfois dans le christianisme qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Et c'est là tout le centre de l'épître aux Colossiens. Et ensuite, ça c'est la première chose qu'on croit, Donc tout ce qui est matériel, etc., ne peut pas être apprécié. Ensuite, on croit que le salut n'est pas accessible à tous par la foi, comme le dit l'Évangile, mais il est accessible aux initiés qui ont la clé de la connaissance véritable et qui savent interpréter. Voici comment démarre l'Évangile de Thomas. L'Évangile de Thomas démarre comme ceci. « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Thomas a écrites. Celui qui trouvera les interprétations ne goûtera jamais la mort. » Autrement dit, vous êtes sauvés, non par la foi en Jésus-Christ, mais dans les évangiles gnostiques, dans le Da Vinci Code, on nous propose un salut par l'interprétation du mystère. Donc tous les gens qui vont réussir à interpréter les mystères, avoir le V, avoir le M, avoir le vase, avoir les machins, les petits codes et tout ça, vous pouvez être sauvés, mais les autres non. Et c'est pourquoi il continue en train de nous dire ceci. Comment est arrivé l'évangile de Thomas ? Parce qu'il faut bien qu'il justifie ce pauvre Lazare de chez Smith en face. Jésus prit Thomas à part et lui dit trois paroles. Quand Thomas revint auprès de ses compagnons et lui dit « Que t'a dit Jésus ?» Thomas répondit « Si je vous le dis, vous prendrez des pierres et vous les lancerez contre moi. Alors un feu sortira des pierres et vous brûlera. » C'est-à-dire, je vous le dirai pas. Parce que c'est un évangile secret. Et si vous trouvez le secret, vous serez sauvés. Sinon, c'est l'enfer. Comment on peut appeler ça l'évangile, voyez ? Philippe, l'évangéliste, nous dit « La vérité ne vient pas dans le monde nu, mais elle vient en signe et en image. On ne la recevra pas autrement. » Alors tous ces évangiles ont rajouté du merveilleux, de l'imaginaire, à toutes les absences des textes de l'évangile réel. C'est-à-dire, on nous raconte, dans certains évangiles, que Jésus, enfant, par exemple, à l'école, faisait des oiseaux avec de l'argile, et qu'ensuite il soufflait sur ces oiseaux, parce que c'était ennuyeux les cours à l'école. Donc, il soufflait sur ces oiseaux, et les oiseaux s'envolaient. Un jour, il s'est même disputé avec un petit copain, ça arrive ça quand même. Alors il l'a maudit, et l'autre est mort sur place. Non mais... Voyez pourquoi ces évangiles-là ne peuvent pas tenir dans le canon des Écritures. Mais dans les évangiles apocryphes, on nous dit qu'en réalité, il y a deux sortes de christianisme. L'un est populaire et réservé à, voilà, au peuple qui comprend rien. Et l'autre est réservé aux initiés qui ont la clé de la révélation, les Illuminati, la connaissance supérieure, qu'on va retrouver dans beaucoup de sectes dans l'histoire. Et donc c'est là que Dan Brown nous propose de revenir à un faux évangile, l'évangile de la gnose. Alors revenons maintenant à notre avant-dernière question ici, les critères pour le canon des Écritures. D'abord, ça veut dire quoi, canon ? C'est vrai que je devrais expliquer. Donc, je cite ceci. Da Vinci Code, page 373, dans le Da Vinci Code de poche, il est moins cher. La Bible est une œuvre humaine qui a été écrite par une foule de personnes différentes à des périodes diverses, souvent obscurantistes. Elle a constamment évolué à travers d'innombrables traductions, additions et révisions. On n'a jamais connu dans l'histoire de version définitive. Voilà ce que nous dit le Da Vinci Code, comme quoi l'écriture n'est pas fiable, la Bible elle a toujours changé, etc. Alors, pour cela, il faut comprendre comment s'est formé le canon des Écritures. Vous me suivez toujours ? Ok. Toute personne qui est déjà sauvée depuis plus que 5 ans, vous pouvez lever la main ? Ok, vous pouvez expliquer maintenant aux autres comment est venu le canon des Écritures ? Alors, le canon veut dire, ça vient du mot canne, simplement, ou cannelle même, puisque c'est un bâton, en fait. En fait, ça veut dire une mesure. On a dû mesurer, donc on a dû établir des critères pour mesurer quels écrits étaient valables. Parce que, du temps de Jésus, vous savez, tout le monde racontait les histoires. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, donc le soir... Personne n'allait surfer, si ce n'est qu'on surfait sur les vies les uns des autres, on se retrouvait dans la maison, dans la rue, et chacun racontait les plus belles histoires qu'il connaissait. Et l'évangile a circulé comme ça, les gens, les évangélistes arrivaient, on racontait les histoires de Jésus. Pourquoi est-ce que ça n'était pas écrit ? Est-ce que vous savez qu'en ce temps-là, 5% de la population mondiale était lettrée ? Ça veut dire 95% des gens ne savaient pas lire. Donc on est dans une culture orale d'abord, et les gens... Répétez cela. Au premier siècle, les quatre évangiles, quand même, ont été rédigés. Et dès la fin, ou pardon, pas la fin, mais dès le deuxième siècle, des pères de l'Église comme Tertullien ou Origène reconnaissent qu'il n'y a que quatre évangiles qui sont seulement établis partout, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Au deuxième siècle,
Donc déjà, quand Constantin nous dit que c'est arrivé au moment du concile de Nicée, en l'an 325, c'est déjà une erreur. Mais à partir de ce moment-là, les écrits ont multiplié, tout le monde racontait des histoires. Et il a fallu établir les bases sur lesquelles on allait reconnaître les écrits inspirés et les autres écrits. Donc les pères de l'Église n'ont pas créé le canon des Écritures, ils ont juste reconnu la marque divine sur les Écritures. De même, Benjamin Franklin, il n'a pas créé l'électricité, il a juste reconnu, découvert ce qui existait déjà. Donc les pères de l'Église ont reconnu ce qui existait déjà. Il fallait pour cela quatre critères. Le premier, c'est l'autorité apostolique. Ça veut dire, est-ce que cet écrit a été fait, rédigé par un apôtre ou quelqu'un qui a connu directement un des 12 apôtres? Les quatre évangiles répondent à ces critères. Matthieu et Jean sont parmi les apôtres. Luc était disciple de Paul, qui va être considéré associé aux apôtres de l'Église primitive. Et Marc était le fils spirituel de Pierre. Tout le monde appelle l'évangile de Marc comme si c'était l'évangile de Pierre. Donc Marc connaissait directement, et toute l'histoire des Actes des Apôtres et l'histoire de l'Église des premiers siècles nous montre que Marc était directement lié à Pierre. Donc ces évangiles-là y répondent. Les évangiles apocryphes ont été écrits beaucoup plus tard. Ensuite, il faut savoir que ces évangiles ont été rédigés entre l'an 30 et 60 après la mort de Jésus. En 30 ans, 60 ans après la mort de Jésus, c'est très très proche. Donc les autres livres apocryphes étaient écrits beaucoup plus tard. Ensuite, le deuxième critère qui était considéré, c'est est-ce que le contenu est cohérent ou consistant avec le reste du Nouveau Testament. Par exemple, l'évangile de Philippe, vous avez déjà entendu ce qu'il dit, mais je vais vous citer encore une autre chose. Ceux qui disent que le Seigneur est mort d'abord, puis ressuscité après, se trompent, car il est ressuscité avant de mourir, nous dit l'évangile de Philippe. Si quelqu'un ne ressuscite pas d'abord, aussi vrai que Dieu est vivant, il ne mourra pas, il est déjà mort. Dieu est un mangeur d'hommes. C'est pourquoi l'homme lui est sacrifié. Avant que l'homme ne lui soit sacrifié, on lui sacrifiait des animaux. Donc, où allons-nous trouver une consistance avec le reste du message de Jésus là-dedans? Cet évangile, quand un évangile contenait ce genre d'erreur grave, eh bien, il était directement mis de côté. Non pas parce qu'il allait dire que Marie-Madeleine, Jésus l'embrassait sur la bouche, mais parce qu'il y avait énormément d'ineptie dans cet évangile-là. Donc il fallait que le contenu soit consistant, cohérent avec le reste de l'enseignement du Nouveau Testament. Ensuite, il fallait, ça c'est un peu plus subjectif, c'est vrai, une communication dynamique de vie. Parce qu'on dit, toute l'Écriture est insufflée de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu. Vous me suivez? Bon, c'est un peu moins que tout à l'heure. Vous me suivez?
Oui.
Merci. Même si vous ne me suivez pas, vous me dites ça, ça m'encourage à continuer. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle agit, elle encourage. Et donc le faux enseignement, c'est ce que les pères de l'Église disaient à ce moment-là, le faux enseignement décourage, détruit, mène à l'esclavage ou à la corruption. Chaque fois qu'il y avait des écrits qui conduisait les gens à vivre dans la corruption, à vivre sous la culpabilité, sous l'esclavage, etc. Il disait, non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On sent le souffle de Dieu dans les écrits qui portent. Donc c'était un des critères. Et enfin, le quatrième critère était une reconnaissance large et diverse dans le monde. Ça signifie que toutes les églises, connues à ce moment-là, ont largement accepté et partagé cet écrit comme une parole de Dieu. Pas quelques individus, mais il s'agissait de plusieurs centaines ou parfois plusieurs milliers d'individus qui devaient déclarer que ces écrits étaient canoniques, c'est-à-dire ils étaient inspirés de Dieu. Le canon de l'Ancien Testament a été accepté 4 siècles avant Jésus, mais là, le canon du Nouveau Testament a été accepté en l'an 170 après Jésus-Christ et non pas en 325, comme le dit le Da Vinci Code. Au moment du concile de Nicée en 325, on a voulu traiter une autre question dont on va parler après. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou pas? Mais ce n'est pas le moment où on l'a fait. Nous avons 24 000 copies de manuscrits du Nouveau Testament. Le premier date de 30 ans après les originaux. 5 400 copies dans la langue originale en grec et... Comment? Excusez-moi, c'est 24 000 et c'est... 5 400 copies dans la langue originale et il n'y a pas de différence entre 5400 copies dans la langue originale. Il n'y a pas de différence. En 1947, les manuscrits de la Mer Morte, c'est pas 947, c'est 1947, pardon, les manuscrits de la Mer Morte montrent la fidélité des textes. On a trouvé là, en 1947, c'est-à-dire hier, on a trouvé à Qumran, près de la Mer Morte, des écrits sur des papyrus. On a trouvé là des écrits du livre d'Ésaïe. Et nous avons vu que le livre d'Ésaïe, ce rouleau-là daté du deuxième siècle, et nous avons vu que c'est le même texte exactement que celui que nous avions depuis des millénaires et que celui que nous avons encore aujourd'hui. Et il en était de même sur tous les autres textes. Pourquoi ? Parce que Dieu a veillé sur sa parole d'une façon extraordinaire. Vous savez, quand on compare deux textes identiques, copiés par des Juifs entièrement différents, distants de 1000 ans, nous ne voyons aucune différence importante. Parfois, c'est des tout petits détails qui peuvent être là, mais il n'y a aucune différence importante. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset était compté, page par page. Si on trouvait une seule erreur, la page entière était jetée, éliminée, déchirée. Parce que on devait, à ce moment-là, voir la perfection. Dieu a veillé sur sa parole. Et nous pouvons vérifier que le texte du Nouveau Testament est plus fiable que tout autre document ancien en existence. Et ça, c'est vérifiable. Ça, c'est pas des légendes. On peut le vérifier avec l'archéologie, on peut le vérifier d'un point de vue scientifique. Nous pouvons nous appuyer sur les écrits de l'Ancien Testament. Donc l'idée que Constantin aurait fait mettre le Nouveau Testament ensemble pour des fins politiques ne tient pas. Voilà ce qui nous est dit. Constantin a commandé et financé la rédaction d'un Nouveau Testament qui excluait les évangiles évoquant les aspects humains de Jésus et qui privilégiait ceux qui le faisaient paraître divin. Les premiers évangiles furent déclarés contraires à la foi, rassemblés et brûlés. Faux ! Ce n'est pas les premiers évangiles. Tous les évangiles apocryphes dont il parle, qui ont été éliminés, sont venus longtemps après les 4 évangiles que nous avons dans nos Bibles. Alors, la question qui nous est posée, est-ce que la divinité de Jésus n'était pas reconnue parmi les premiers chrétiens et ne serait qu'une invention du 4e siècle au concile de Nicée? Donc je voudrais terminer par ça et je ferai un signe à l'équipe de louanges pour qu'on termine ce culte en louant Jésus, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, celui qui a vaincu. Alors, qui est ce Jésus? Le concile de Nicée n'a fait que statuer une fois pour toutes sur une hérésie d'un certain Arius qui était là. Et quand le Da Vinci Code nous dit, Constantin, c'est lui qui a fait voter la divinité de Jésus. Il a mal lu son histoire de l'Église. Constantin était de la théologie d'Arius. Constantin s'était converti, mais il ne croyait pas, il s'est fait baptiser du baptême arien, c'est-à-dire ceux qui disent Dieu est Père, Jésus n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Donc comment un homme qui s'est fait baptiser dans la doctrine d'Arius, vous me suivez ? Oui ? Merci. Encouragez-moi un peu. Merci. Comment un homme qui s'est fait baptiser dans la doctrine d'Arius pourrait-il dire, moi je veux qu'on reconnaisse Jésus comme Dieu? C'est faux. Donc par contre maintenant, qu'est-ce que l'Abîme nous dit? L'Abîme nous dit, au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Je suis fils de Dieu. Jean 10, 36. Car en lui, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Qui a été manifesté en chair? Dieu. Qui est venu dans la chair? Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu fait humain. La Bible nous dit, Colossiens 2:9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il est de nature divine depuis l'éternité. Toutes les Écritures en témoignent. La loi, les prophètes et les psaumes annoncent sa venue. Si Jésus n'était pas Dieu, est-ce qu'on pourrait le prier? Pourtant, quand Étienne meurt, il écrit ceci. Il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Si Jésus n'était pas Dieu, il ne pourrait pas être prié. Luc 24, 52. « Après avoir adoré Jésus, ils retournèrent à Jérusalem le cœur rempli de joie. L'agneau qui a été immolé, c'est Jésus, est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, et toutes les créatures le louent et l'adorent. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul. » Si Jésus n'était pas Dieu, toutes les créatures ne l'adoreraient pas comme la parole de Dieu nous le dit ici.
Donc la loi, les prophètes et les psaumes nous annoncent que Jésus-Christ est réellement divin. Vous savez, il y a 456 passages messianiques dans l'Ancien Testament. Ça fait 558 références bibliques. 109 prophéties distinctes que le Messie doit accomplir. Les chances qu'une personne seule accomplisse cela sont moins de 1 sur 100 millions, ou c'est 1 sur 100 milliards, je dois vérifier cette chose-là. Mais j'ai pris le chiffre le plus bas. En réalité, une seule personne a pu réunir la réalisation de toutes ces prophéties, de tous ces textes de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, après sa résurrection dans Luc 24, versets 25 à 27, et commençant par Moïse, les prophètes, la loi, les prophètes et les psaumes, il leur a expliqué tout ce qui le concernait. Qu'est-ce qu'on a vu chez les prophètes? On a vu chez les prophètes, la Vierge deviendra enceinte. Ésaïe 9, 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On appellera le fils comment? Comment on appelle un fils? Père éternel. Pourquoi? Moi et le Père, nous sommes un, nous dit Jésus. On l'appellera Père éternel. Il nous est dit encore, Ésaïe 11, 1, un rameau sortira du tronc de David, un rejeton viendra, le souffle du Seigneur sera sur lui, il respirera la crainte du Seigneur, donc il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Le mot arbitrer est le mot être médiateur. Ésaïe 22, verset 22, je le chargerai de la clé du royaume de David, quand il ouvrira, nul ne fermera, je le planterai fermement comme un clou dans un endroit solide, et il sera comme un trône glorieux pour la maison de son père. Le clou et le trône sur celui qui a reçu la clé de la maison de David. C'est qui accomplit cette prophétie? Jésus-Christ lui-même. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne brisera pas le roseau cassé. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai et je t'établirai pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir le captif de son cachot, de sa prison. Ésaïe 49, versets 6 et 7. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez ceci. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, ils se lèveront, des princes, ils se prosterneront. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ésaïe 52, versets 14 et 15. Son aspect défiguré n'était plus celui d'un homme. Son apparence n'était plus celle des êtres humains. De même, il purifiera par l'aspersion une multitude de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur a pas été raconté. Ésaïe 53, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Jérémie 23, il nous est dit, dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'est comme ça que Jésus commence son ministère. Jérémie 23, voici, je vais susciter un germe juste à David. David était déjà mort. On l'appellera le fils de David. C'est comme ça que Jésus a été appelé. Et il sera appelé l'Éternel, notre justice. Daniel 7, versets 13 et 14, parce que j'en saute quelques-unes. Je regardais pendant mes visions nocturnes, voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Daniel n'a pas vu la crucifixion comme Ésaïe, mais il a vu, bon, bien qu'à un moment donné il parle du Messie retranché, mais il a vu l'ascension. Et il nous parle de cette ascension. Il nous dit, quelqu'un semblable à un fils de l'homme est arrivé sur les nuées. Il s'avança vers l'Éternel ou l'Ancien des Jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Michée 5 nous dit, et toi de Bethléem, Ephrata, petite ville entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et les nations, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité, parce qu'il est éternel. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Même à Montpellier, en 2005, il y a des gens qui le glorifieront encore. Zacharie 13, 7. Frappe le berger que les brebis se dispersent. Zacharie 3, 8. Je ferai venir mon serviteur, le germe, c'est-à-dire celui qui est incarné. Zacharie 9, 9. Une scène de l'évangile. Voici ton roi. Il vient à toi, humble, monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Zacharie 12, 10. Et ils tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont percé de la lance quand il était sur la croix. Le fils de David nous est présenté dans un chronique. Les psaumes nous parlent de Jésus. Psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Psaume 22, verset 16. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Un autre psaume dit, aucun de ces os n'est brisé, ce qui était le cas pour Jésus. Psaume 45. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie en privilège sur tes collègues, parce que Jésus-Christ est Dieu. Dieu le Père l'a oint. Alléluia. Et moi, je ferai de lui, psaume 89, 28, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, je rendrai sa postérité éternelle et son trône éternel comme les cieux. Psaume 110, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel l'a juré, tu es sacrificateur pour toujours. Et puis vous avez toutes les figures prophétiques, Noé, Isaac, tant de gens dans l'Ancien Testament qui sont comme des figures prophétiques de l'image de Jésus. Donc ce Jésus, annoncé par la loi, les prophètes et les psaumes, c'est quoi son œuvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Son œuvre d'abord, c'est l'incarnation. Dieu s'est fait chair. La Vierge, une femme vierge, a enfanté. C'est un miracle. Jésus-Christ est venu par un miracle. La puissance du Très-Haut l'a couvert. Dieu n'est pas devenu homme, Dieu est devenu germe. Mon serviteur, le germe, est entré dans le sein d'une jeune fille vierge, une adolescente, qui craignait Dieu, qui était prête à faire face à toute la honte, à tout le mépris d'une civilisation qui était autour d'elle, parce qu'elle voulait que le plan de Dieu passe par elle. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Quel amour, quelle manifestation glorieuse. C'est le plus grand des miracles. Dieu est devenu chair, il est venu vers nous. Et donc ensuite, son ministère sur la terre, c'est ceci. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il nous a dit « oint de l'esprit ». Ça veut dire que Jésus n'a jamais rien fait comme deuxième personne de la divinité. Il a toujours agi comme un homme rempli de l'esprit. Vous avez un signe de cela. Un jour, Jésus va au jardin de Gethsémané. Son ami Pierre sort son épée et dit, il commence à frapper le gars. On lui a coupé l'oreille. Jésus guérit l'oreille du gars. Je me demande comment il a fait pour pas se convertir, lui. Il voit son oreille partir. Il se remet l'oreille. Il voit l'oreille revenir et il continue à arrêter Jésus. Enfin, ça c'est pas l'histoire. Peut-être, j'espère pour lui. Mais Jésus dit à Pierre, « Mais ne sais-tu pas que je pourrais demander à mon Père, maintenant même, il m'enverrait 144 000 anges, 12 légions d'anges. » Mais il ne fait pas ça, parce que là, il aurait agi en tant que fils de Dieu, comme il agit en tant que fils de l'homme. Il va prier, suer des grumeaux de sang, jusqu'à ce que Dieu lui envoie un ange pour les réconforter. Jésus a toujours agi dans les mêmes limites que toi et moi comme un fils de l'homme, oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus faisait du bien, il était homme de compassion. En tout temps, il a fait du bien, il a multiplié les pains pour les pauvres. Il a connu lui-même la douleur, la misère, le rejet. Il était lui-même dans la souffrance. Il a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Mais il faisait constamment du bien. Vous lisez les évangiles, Jésus était bon. Et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. 75% des évangiles sont remplis d'actes surnaturels, de guérison, de délivrance, de l'intervention de Jésus-Christ. Au milieu de ses enseignements, au milieu de tout ce qu'il faisait, Jésus démontrait la puissance de Dieu. Et aussi, il enseignait, il prêchait, parce qu'il savait combien les pensées humaines sont la porte d'entrée de la vérité qui rend libre, ou la porte d'entrée du mensonge qui les rend découragés, esclaves, etc. Alors, il enseignait continuellement. Et une des choses qui lui tenait particulièrement à cœur était de former ses 12. Il les prenait à part, il les avait avec lui, il leur enseignait des choses en particulier, il leur expliquait, il les formait, parce qu'il voyait son avenir. Néanmoins, le but de sa venue, c'est de donner sa vie en rançon. Comme Marc, chapitre 10, verset 45, nous le dit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Au travers de son sacrifice, Jésus accomplit tous les sacrifices. Il a été fait péché pour que nous soyons justice de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, nous dit la Bible. Il est ce sacrifice de la paix. Il ôte le péché de la vie des humains. Il est le sacrifice parfait d'expiation, de réparation. Il est devenu malédiction à la croix. Il est devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Il a été séparé du Père sur la croix ce jour-là pour que nous devenions ses enfants. Il est le Messie souffrant pour que par ses souffrances, nous soyons guéris. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà qui est le Seigneur que nous adorons. Voilà à cause de quoi nous nous retrouvons le dimanche matin. Voilà la scène qui fait que tous les dimanches matins, mon cœur ne peut pas se retenir. Je pourrais jamais imaginer le prix qu'il a payé pour mon péché. Jamais je viendrai devant mon Dieu en étant indifférent, tiède ou manquant de reconnaissance. Il est digne de toute ma louange, de toute mon adoration, car il a quitté le ciel de gloire pour vivre cela à ma place, pour vivre cela à ta place. C'est pourquoi nous voulons être une église passionnée pour lui, répondre à cet amour qu'il a manifesté à nos yeux. Le but de sa venue, c'est cela. À la croix, il accomplit tous les sacrifices, devenu péché, malédiction, pauvreté. Il est souffrant. Et au séjour des morts, je vais appeler l'équipe de louange à me rejoindre, s'il vous plaît. Au séjour des morts, Jésus est descendu et la Bible nous dit, il a confronté Satan et il a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a dit, Satan, redonne-moi la clé. Et Satan a dû lâcher la clé. Et Apocalypse 1, 18 nous dit, Jésus déclare, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts dans mes mains. Voilà le Jésus que nous adorons. Voilà pourquoi nous voulons grandir dans l'adoration. À cause de lui, il est si grand, il mérite tellement nos louanges et notre adoration. Au séjour des morts, il a prêché l'évangile à ceux qui étaient morts depuis longtemps. Et il a ouvert la porte du séjour des morts en disant maintenant, vous êtes libres, vous qui avez craint Dieu. Le sacrifice n'avait pas coulé pour vous, mais maintenant tout est accompli. J'ai accompli le sacrifice pour vous. Alors maintenant, vous pouvez sortir. Et les saints sont sortis du séjour des morts. Ils sont montés vers Jérusalem. Et là, plusieurs des corps des saints de l'Ancien Testament sont apparus, nous dit Matthieu 27, versets 42 à 53. Après la résurrection de Jésus, nous avons vu les saints de l'Ancien Testament se promener dans Jérusalem. La mort a connu une cuisante défaite définitive. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Après cela, Jésus est monté dans les cieux. Et dans les cieux, la Bible nous dit, il a traversé les cieux, les a purifiés par son sang de la rébellion de cet ange de lumière, Lucifer, qui avait entraîné des anges contre Dieu. Jésus a lavé par son sang non seulement nos péchés, non seulement il a dépouillé les autorités, les dominations sur la terre, en les livrant publiquement en spectacle, quand il a triomphé d'elles par la croix, mais dans les cieux, il a purifié le ciel de tout le péché satanique. Il a expulsé Satan, nous dit Apocalypse 12, 10. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance de notre Dieu et de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. C'est pourquoi Jésus n'a pas connu la corruption, et il nous le dit maintenant, il est élevé au-dessus de tout, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, son ministère, qui est Jésus? Aujourd'hui, la Bible nous dit aussi, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est Seigneur et il est Sauveur. Jésus est le Christ. Quand tu ne sais pas quoi lui dire le dimanche matin, dis-lui qui il est. Tu es le Seigneur, tu domines toutes choses. Tu es le Sauveur de ma vie. Tu es le Christ, ça veut dire la plénitude de l'onction. Tu es le sacrificateur, ça veut dire c'est toi qui offres des sacrifices. Et le seul sacrifice valable, c'est le sang de Jésus qui parle devant Dieu dans le ciel. Il y a un sang qui parle au ciel pour toi. N'écoute pas les accusations du diable. Le sang de Jésus parle favorablement pour nous. nous encore. Alléluia. Nous avons un avocat auprès du Père. Il est l'intercesseur pour nous. Il est l'intercesseur. La Bible nous dit que Jésus-Christ aujourd'hui est toujours vivant pour intercéder pour nous. La Bible nous dit qu'il est le chef suprême de son Église. La Bible nous dit qu'il est le roi des nations et que tous les peuples, toutes les nations viendront un jour adorer Jésus. C'est pourquoi nous allons nous lever maintenant et nous allons dire ensemble ce texte avant de chanter le chant que nous allons prendre. Je voudrais que nous disions tous à voix haute ce texte. C'est Philippiens 2, versets 5 à 11. Pendant que la musique continue, le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec Dieu, le Dieu Saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas voulu naître, en simple serviteur, esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui l'honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, je veux vous entendre, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent les vainqueurs.
Le chant de gloire.
enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.